mon petit bonhomme.
Oui, 10h03, hein, c'est maintenant la place de Tribune Foot, hein, toujours avec Jean-Loup Leplat qui va changer sa casquette. Donc il enlève la casquette de président du comité départemental olympique et sportif des Yvelines et puis il endosse la casquette de président de l'amicale des éducateurs d'Île-de-France de foot. On avait eu la semaine dernière Claude Content, donc le président du district, hein, qui était venu nous parler de ses projets pour l'année 2008, hein, en matière donc de foot dans les Yvelines. On avait aussi deux responsables du foot UFOLEP A7, d'Eure-et-Loire, hein, qui nous avait notamment parlé d'un foot sans arbitre, parce que eux pratiquent le football
l'auto-arbitrage.
Ouais, c'est ça. Hein, ils nous avaient en tout cas parlé. Alors Jean-Loup Leplat, en tant que président donc du comité de l'amicale, pardon, d'éducateurs d'Île-de-France, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette année 2008?
Ben écoutez, ce qu'on peut souhaiter, c'est que tout se passe bien sur les terrains. Je crois que c'est ça qui compte, qu'effectivement les rencontres se déroulent dans une ambiance correcte. Après tout, le football, c'est un jeu. Je crois que quelquefois, on l'oublie. Mm-hmm. Et en particulier auprès des jeunes enfants, je crois qu'il faut développer la pratique, le jeu. Et puis voilà, et puis c'est déjà pas mal.
Mm-hmm. Alors, vous êtes en complète, osmose avec le district des Yvelines. Claude Content travaille beaucoup avec vous, hein, toujours en étroite collaboration.
Bien sûr.
Et pas seulement qu'à travers le DOS, hein, c'est aussi en tant que président de l'amicale, hein, des éducateurs.
Je suis moi-même en tant que représentant des éducateurs des Yvelines, membre du comité directeur du district de football, dont je sais ce qui s'y passe, bien sûr. Et bien sûr, il y a collaboration complète entre les éducateurs et le district de football. De toute façon, le district de football, il a besoin de nous, parce que c'est quand même nous qui encadrons toutes les équipes, tous les joueurs sur les terrains, et réciproquement, nous aussi, on a besoin du district qui complète quelques moyens qu'on n'a pas forcément, et qui, comme je le disais tout à l'heure, dans un autre cadre, forme les éducateurs, en tout cas ceux qui démarrent, les initiateurs 1, initiateurs 2, animateurs seniors. Ils sont bien issus de la formation organisée par le district des lignes de football.
Alors, on va rentrer justement dans le vif du sujet, notamment sur la formation des éducateurs, mais quand on a deux casquettes comme vous, c'est facile de faire la part des choses, c'est facile d'être à la fois président du DOS et puis président d'amicale des éducateurs.
Écoutez, je pense que c'est ça va être dans les gènes. Je remercie mes parents qui m'ont donné cette faculté d'être volontaire et de pouvoir s'organiser pour remplir différentes missions en même temps, et c'est vrai, j'en ai beaucoup, mais je crois que c'est une question et de volonté et d'organisation du temps de travail.
Oui, puis de ne pas mélanger un peu les deux fonctions, c'est-à-dire de faire la part des choses, de prendre un peu comme nous, journalistes, ce recul sur les...
Voilà. Hein,
sur les choses.
Mais des fois, l'un et de l'autre, hein, c'est vrai que quand on est au DOS, on oublie sa casquette de membre, je dirais, de la discipline football, et puis inversement, quand on est au comité directeur du district des lignes de football, on oublie qu'on est par ailleurs président du DOS, et ça, il faut le faire.
Alors, on a parlé des jeux pour en tant que pôle DOS, mais il y aura en matière de foot un énorme événement, c'est l'Euro. Là aussi, on va, à travers l'amicale des éducateurs, accompagner cet événement, ce rendez-vous important pour le foot français.
Alors, vous dites accompagner, ça dépend dans quel sens on le prend, on l'accompagne moralement, mentalement, derrière l'équipe de France, c'est normal. N'oublions pas encore une fois que l'équipe de France, elle vient de la masse dont on parlait tout à l'heure, et que c'est une élite qui dégage progressivement, et je crois là encore que il faut signaler le gros effort de formation fait par les clubs franciliens, mais bien sûr au sein desquels on trouve les clubs yvelinois, parce qu'on commence à se rendre compte que la majorité des joueurs qui fréquentent les sélections nationales, des plus jeunes à l'élite, c'est-à-dire l'équipe de France, il y en a beaucoup qui viennent de la région francilienne. Donc c'est que le travail a été fait.
Et puis ça nous permet maintenant de venir et d'en venir à Clairefontaine. Hein. C'est un outil fabuleux d'avoir un tel outil dans le département des Yvelines. Pour vous, éducateurs des Yvelines, on ne peut pas rêver mieux. Quoi.
Vous avez raison, je crois que finalement dans les Yvelines, maintenant on est complètement habitué à voir le Centre Technique National faire danser à Clairefontaine, et on est tellement habitué qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a.
Ouais.
Ce qui veut dire que ça devient presque banal.
C'est ça.
Alors que les légendes de France et de Navarre, et d'ailleurs se présentent à la porte pour visiter le centre de technique de Clafontaine qu'ils ne connaissent pas, et ils ne peuvent pas toujours y entrer. Et nous, qui sommes à côté, on n'y va pas toujours. C'est dommage.
Je peux vous dire que le centre technique, tout le monde connaît. Même en Martinique, ouais. On sait situer Rambouillet à travers ça.
Oui, mais tout le monde n'y est pas allé encore. Ouais, je souhaite qu'effectivement beaucoup connaissent le centre qui est magnifique et qui s'amplifie, s'améliore au fil des ans.
Alors, votre amicale des éducateurs, elle existe depuis combien de temps ?
Bah écoutez, c'est vieux comme le monde, je dirais. Il faut quand même rappeler qu'au plan national, l'amicale des éducateurs de football, c'est né en 1947. Une très très belle année, c'était mon naissance. Et une très bonne année pour les amateurs.
Ouais, c'était l'après-guerre après.
Ouais, c'était l'après-guerre. Ouais. Ben, c'est né de la volonté d'une cinquantaine d'éducateurs, d'entraîneurs, qui s'étaient organisés pour créer cette amicale, au nombre desquels, je rappelle bien sûr le nom de Georges Boulogne. Mm-hmm. Et puis il y avait déjà des gens comme Joseph Mercier, enfin des gens
qu'on a vu l'autre jour au Fair Play, toujours aussi alerte, Joseph.
Toujours alerte, il a dépassé les 80 ans, toujours présent, toujours vif, intellectuellement, émetteur d'idées.
Oui. Alors, Georges Boulogne, c'est vrai que quand on cite le nom de Georges Boulogne, on garde à l'esprit sa période en tant que sélectionneur de l'équipe de France, qui n'a pas été mirobolante et très folichonne. Par contre, on oublie l'énorme travail qu'il a fait en tant qu'éducateur. Il a été parmi ceux qui ont peut-être permis aujourd'hui au football français d'être ce qu'il est. On l'oublie un peu trop souvent, l'image du sélectionneur qui n'avait pas de bons résultats, elle occulte le reste.
Oui, mais attendez, un petit point d'histoire, vous avez complètement raison.
C'est pour ça qu'il fallait le dire.
Mais rappelons-nous qu'en 1970, donc après 66, c'était la dernière participation de l'équipe de France en Angleterre, qui n'avait pas été quand même très, très, très brillante, mais on était un petit peu dans le trou, si on peut dire. On était à l'intervalle qui sépare des générations, on avait dépassé 58, et toutes les années 60-70, c'est vrai, c'était tristounet. Mais justement, c'est là que Georges Boulogne est intervenu pour revivifier, réorganiser, restructurer tout le football français.
Il a fait un travail énorme dans l'ombre.
Et c'est lui qui a créé, par exemple, l'idée des centres de formation. Alors, à l'époque, il y avait l'INF Vichy, l'Institut National du Football à Vichy, qui plus tard est revenu à Clairefontaine, on y revient, bien sûr, dans nos chères Yvelines. Mais c'est lui qui a créé l'idée du centre de formation. C'est lui qui a créé les formation d'éducateur. C'est lui qui a créé toutes les sélections de jeunes pour les faire améliorer, progresser. Donc c'était un grand créateur, un grand innovateur. Et je crois que tout le football français, lui doit une fière chandelle pour voir où est-ce qu'on est aujourd'hui. Mais pour une partie, c'est grâce à lui, grâce à son action. C'était un visionnaire.
Il faut le dire, parce que c'est vrai que cette image de sélectionneur qui n'a pas eu de bons résultats, ça occulte justement cet énorme travail de visionnaire.
Moi je crois qu'il faut retenir de toute la carrière de Georges Boulogne, d'avoir eu les idées qu'il fallait au bon moment pour qu'avec un travail constant, le football français arrive au point où il est arrivé, avec quand même, rappelons-nous, une finale de Coupe du Monde, gagnée contre le Brésil, 3-0, 78, championnat d'Europe, une finale de Coupe du Monde. Et je veux dire que tout le monde signe pour un palmarès pareil, quoi. Tout le monde nous l'envie, et c'est pour ça que tout le monde vient voir Clairefontaine.
Alors, donc, les actions concrètes de cette amicale, c'est avant tout, effectivement, de permettre aux éducateurs, d'être formés et dans les meilleures conditions,
Alors voilà, si on parle de formation, rendons à César ce qui appartient à César. La formation fait le monopole de la direction technique nationale. Donc ce sont ces cadres techniques, les conseils techniques régionaux, les conseils techniques départementaux, qui, sous l'emprise de la DTN, forment les éducateurs dans les départements. Et c'est la règle également chez nous, avec Michel Robles, le conseiller technique des départementaux.
Oui, qui était venu à ce micro d'ailleurs.
Voilà, mais nous, Amical, nous avons aussi notre rôle à jouer dans ce domaine, parce que nous apportons un complément de formation.
D'accord.
C'est-à-dire qu'au quotidien, on va dire tout au fil de l'année, nous développons des actions qui permettent effectivement à des éducateurs d'avoir un complément de formation qu'ils n'ont pas forcément pendant le court temps de formation que dure leur stage.
Par exemple, ce complément de formation, c'est quoi ?
Par exemple, revenons à Clairefontaine, tout simplement, où effectivement, courant octobre, nous avons invité René Girard, qui est tout de même un entraîneur national reconnu, avec un grand palmarès de joueurs professionnels, d'international, un entraîneur national très, très, très compétent, et nous avons développé une séance sur le plateau de Clairefontaine, sur le thème du jeu des attaquants. Voilà.
D'accord.
Alors ça, c'est un complément de formation. Et c'est pas dans un livre, c'est sur le terrain que ça se passe. Et les éducateurs ont participé au séances d'entraînement animé par René Girard sur ce sujet-là.
Alors, vous aurez des grands axes de priorité pour cette année 2008?
Bah 2008, alors revenons à l'amicale régionale, on peut considérer que c'est un complément de formation. Nous comptons faire venir sur le plateau de Créteil, cette fois-ci on se trouve à Créteil, à la maison départementale des syndicats, des grands attaquants du football français. Je veux citer Raymond Coppa, Dominique Rocheteau, je veux citer peut-être son compère...
Oui. Raymond Coppa qu'on a eu au prix national.
Oui, vous avez raison, il a reçu les Irées du sport, qui est la plus grande récompense au titre du fair play en France.
L'occasion d'interviewer et qui est toujours resté vraiment aussi alerte et aussi passionné par le ballon.
Tout à fait, toujours passionné par le football. Nous comptons avoir Dominique Rocheteau, comme je vous le disais.
Qu'on avait vu aux 30 ans de l'US Poigny.
Voilà, nous comptons avoir un attaquant qui joue encore à Créteil qui s'appelle Rui Patacoa, parce que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait les représentants des différentes générations qui soient présents.
Bien sûr.
Nous comptons avoir Hervé Revelli, qui aux dernières nouvelles s'était déclaré intéressé. Et puis on pense aussi avoir comme animateur de ce colloque technique, notre attaquant, Jean-Michel Larquet.
D'accord.
Un autre grand du football. Donc ça veut dire qu'il y aura quelques Stéphanois qui vont se retrouver, je l'espère, avec plaisir. Hervé Revelli, Dominique Rocheteau et Jean-Michel Larquet.
Alors
trio d'attaque, d'ailleurs.
C'est un peu comme pour le Gdos, ce genre de manifestation. On réunit donc beaucoup de gens dans le domaine du foot. Beaucoup de curieux, on pose beaucoup de questions. Ça apporte beaucoup, ce genre de choses?
Ça apporte parce que déjà, on voit à travers la présence de ces personnes-là des témoignages de gens qui connaissent bien le football, qui font part de leur expérience et qui vont montrer aussi le développement du football et du jeu des attaquants. Donc il y aura forcément beaucoup de questions parce qu'indéniablement, si on prend le jeu des attaquants, il a considérablement évolué. Oui,
avec des défenses beaucoup plus serrées, beaucoup moins d'espace, donc c'est beaucoup plus difficile.
Voilà, et c'est là on voit d'ailleurs, en l'occurrence, revenons à l'amicale éducateur, le rôle fondamental des entraîneurs, parce que pour passer ces dépenses très imperméables,
il faut cogiter des combinaisons.
Oui. Là, il y a des répétitions à l'entraînement pour arriver à passer les défenses. Donc ça, c'est le travail de l'éducateur, c'est le travail de l'entraîneur. Ça devient un travail très, très tactique aussi.
Alors, on s'en rappelle, vous êtes élu d'ailleurs au lendemain de cette journée, il y a 2 ans, c'était consacré sur les gardiens de but. On avait eu l'occasion de croiser Dominique Colonna, Georges Carnus, l'homonyme.
René Vignal.
Et donc, effectivement.
Et Bruno Martini.
Ouais, on avait très bien expliqué le rôle et l'évolution du gardien de but. Je pense qu'on va faire ça également.
C'est le même schéma qui est retenu, de voir l'évolution du rôle des attaquants, de leur comportement, effectivement, pour mettre les buts au fond des filets.
Ce qui va peut-être nous permettre de répondre à la question pourquoi on marque moins de buts dans le championnat français.
Pourquoi alors là,
Il y a des très bonnes défenses, il y a des très bons gardiens aussi.
Il y a des défenses hyper renforcées, mais ça dépend aussi peut-être d'un état d'esprit, parce qu'effectivement, écoutez, les entraîneurs qu'on voit qui sont remerciés, même pas, on n'attend même pas en décembre, très souvent le 15 octobre, ils sont déjà remerciés, donc pensez bien que les entraîneurs ne sont pas forcément enclins à prendre des risques, et puis qui renforcent leur défense déjà pour ne pas prendre de but. Surtout quand on va à l'extérieur, on part du principe que si on peut ramener le point du match nul, on prend les précautions qu'il faut pour pas encaisser de but. Au début du match, c'est 0-0. Donc, si on garde 0-0, ça fait un point. Voilà. Ça prend de là. Alors après, effectivement, est-ce qu'il y a les attaquants de la qualité nécessaire pour pouvoir franchir ces défenses imperméables? Ça, c'est un autre sujet.
Donc, ça sera, on va rappeler, la date, c'est le 19
avril,
c'est ça?
Alors, c'est le samedi 19 avril au matin. C'est à la maison départementale des syndicats, qui est une maison magnifique, à Créteil. Où nous serons très bien accueillis, comme nous l'avions été il y a 2 ans. Et on espère qu'il y aura un gros succès à cette manifestation.
Et comme pour les gardiens de but, nous y serons. Et comme pour les gardiens de but, vous viendrez au lendemain nous faire un peu le résumé de cette matinée de foot. On en salive déjà d'avance.
On en salive. Un monument pareil.
Ouais. Alors ensuite, les autres grands axes sur 2008, ça sera l'énorme événement, mais il y en aura d'autres, des priorités pour 2008.
2008, vous savez, on parlait de formation, on parlait d'éducation, l'action est incessante. Ce qui compte, c'est nous, les éducateurs, de réfléchir sur ce qu'on doit faire par rapport au constat opéré. On parlait de lutte contre la violence. Évidemment, c'est un sujet. On peut pas tolérer ça, on peut pas admettre ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour
vous
remédier?
Vous pensez qu'il y en a trop, moins que ce qu'on parle
Ni plus ni moins, vous savez, il n'y a pas que le football qui est touché.
C'est un problème de société en général.
Oui, c'est un problème de société. Vous savez, je crois que malheureusement, le football qui est un sport populaire, il pâtit du fait que quelquefois on se sert du football pour s'exprimer, et il y a certaines bandes qui viennent de l'extérieur et qui profitent du match de football, qu'il soit même international, national ou départemental ou local, pour s'exprimer et pour dire on est là et voilà, et on se bat entre nous, on se signale. Et ils sont contents, mais le football, lui, il peut pas admettre ça. Et nous, ces gens-là, on n'en veut pas, faut le dire.
Alors, ça vous oblige aussi à avoir une charte du parfait éducateur, parce que il y a aussi parfois des éducateurs ou des entraîneurs, et on le voit même dans le milieu pro, qui font un peu monter la mayonnaise. Alors, ça aussi,
Écoutez, que chacun balaye devant sa porte, nous, l'éducateur, je pense qu'on est capable de le faire, mais vous avez raison, il y a une charte de l'éthique qui a été signée sur le plan du département, dans les Yvelines, entre les éducateurs, les arbitres et les dirigeants. Mmh. Et chacun sait pertinemment ce qu'il doit faire pour que la rencontre se déroule bien. On a juste ça, je tiens à le signaler, il y a eu un gros travail qui a été fait pour bien préparer le match. Et là, on a découpé, il y a peu, avec des collègues éducateurs, avec l'appoint d'arbitre, de dirigeant, le match dans l'heure qui précède le match, de telle sorte que tout se déroule bien. On accueille bien l'arbitre, on accueille bien l'équipe adverse, on accueille les dirigeants, parce qu'on est persuadé que si on prépare mieux le match se déroule mieux. Donc là, il y a un gros travail qui a été fait, et ce travail d'ailleurs a été repris, je crois, par la fédération. Hein, c'est un travail qui vient de chez nous, des Yvelines, et je pense qu'à terme, on devrait raisonner sur les mêmes base pour bien préparer le match.
Si un éducateur, par exemple, sortait un peu de cette charte, vous seriez favorable à ce que il n'y ait plus de fonction d'éducateur au sein
écoutez,
de
je vous réponds tout de suite, je crois que le travail est fait. Il faut savoir que, par exemple, sur le plan départemental, au sein du district de football, d'une part, il y a une commission de discipline. Moi, personnellement, elle existe, mais moi, j'y ai participé une fois. Ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse. Moi, c'est plutôt la prévention, donc je reviens toujours à la formation et à la bonne éducation d'éducateur. Et puis, quand même, il y a une commission de l'éthique que j'ai l'honneur de présider par ailleurs au sein du district du football. Et c'est vrai que de temps en temps, il y a des éducateurs qui comparaissent devant elle, aussi bien d'ailleurs que des arbitres ou des dirigeants. D'ailleurs, tous ceux qui se comportent mal sur un terrain de football ou autour d'un terrain de football peuvent être invités à comparaître devant cette commission. Et on sait quoi leur dire. On les rappelle à l'ordre. Quoi. On leur dit, monsieur,
mais pas
ça
de radiation à vie, pas de.
Non, c'est pas notre rôle. C'est pas le rôle de la commission de l'éthique. Ça, c'est le travail de la commission de discipline qui le fait. D'accord. Elle a des barèmes, elle sanctionne. Bon, ça, c'est son affaire. Nous, c'est pas ça. Nous, on essaie d'expliquer que ça se ne fait pas. On essaie d'être plus pédagogue. On essaie de faire comprendre aux gens, une fois qu'ils sont sortis de la salle, qui doivent pas recommencer, quoi.
Donc, c'est une philosophie de vie. Hein.
C'est une philosophie. Oui, tout à fait.
Le foot, c'est une philosophie de vie.
Tout à fait, tout à fait.
Alors, rémunéré ?
Rémunéré ou pas rémunéré ?
On peut être éducateur. Oui, alors justement, parce que si on est éducateur, ou on passe les diplômes maintenant, donc des brevets, donc rémunération, on sort un peu du cadre du simple bénévolat.
Alors, non, mais disons-le tout net. Je veux dire que un éducateur qui consacre beaucoup de temps à sa formation, à son éducation, qui passe les examens, qui passe les diplômes. Alors rappelons, initiateur deuxième niveau, animateur senior, et après on passe au diplôme d'État, brevet d'État, éducateur sportif premier niveau, puis après les gens enchaînent, diplôme d'entraîneur de football, et puis s'ils sont très bons.
Ça met combien de temps ça
c'est un cycle, hein. Il y a 7 ou 8 échelons de formation. Donc quand on arrive, qu'on est en train d'une équipe professionnelle, il faut dire qu'on a passé 7 ou 8 échelons précédemment pour arriver à ce niveau-là, avec des années d'expérience,
et
des années de travail.
Le BE1 ou le BE2, ça met un peu...
Le BES1, c'est une année de formation, je tiens à le dire, d'ailleurs, c'est le DOF qui assure la formation du tronc commun. Et l'épreuve spécifique, elle se prépare avec le concours du conseil technique départemental, il le passe en général à Clairefontaine.
Ce sont des épreuves écrites, et il y a des épreuves théoriques et pratiques.
Il y a les deux. On parle du tronc commun diplôme d'État, il y a deux épreuves écrites en sciences biologiques et en sciences humaines, et 3 épreuves orales, sur l'organisation, le projet, les règles, la législation. Et puis après, il y a les épreuves spécifiques sur le terrain, avec une épreuve pédagogique, une épreuve de démonstration technique, technique ou tactique. Voilà, donc je veux dire, c'est quand même commun. Il y a une vraie formation des éducateurs qui est assurée.
Donc ça, c'est rémunéré, hein ?
Alors, rappelons quand même un point. Seuls peuvent être rémunérés les éducateurs de football, comme les autres éducateurs sportifs, qui ont un diplôme d'État. Donc, les brevetés d'État. En principe, au moins, donc, les diplômés fédéraux ne peuvent pas être rémunérés. Mais dans la pratique, on sait très bien que c'est pas non plus anormal que les gens sont indemnisés pour leurs frais de déplacement. Mais il faut que les frais de déplacement soient justifiés. Ça, c'est la règle. Alors après, on retombe sur un problème de droit social, de droit du travail, du droit de la sécurité sociale. Mais bon, on va peut-être pas parler de ça aujourd'hui.
Et puis, naturellement, on accompagne aussi tous ceux qui font office de bénévoles. Alors, à travers vos actions, hein, à travers votre...
Vous avez raison de le signaler, il faut toujours le rappeler. S'il n'y avait pas tous ces bénévoles qui consacrent énormément d'heures tout au long de la semaine, tout au long de l'année, pour encadrer les équipes, les accompagner, gérer les clubs, gérer les équipes, bah, il n'y aurait pas de football, c'est sûr, mais il n'y aurait pas de sport non plus. Donc je crois qu'effectivement, on peut profiter de l'audience qui nous est donnée pour leur rendre un vibrant hommage. Ces gens sont très, très, très méritants. Et ils mériteraient d'ailleurs d'être récompensé, en tout cas reconnu. Voilà.
Vous travaillez donc en total partenariat avec tous les districts de la région, pas seulement les Yvelines, hein, l'Essonne, le Val-de-Marne, entre autres, les Hauts-de-Seine.
Tout à fait, bah, à travers le conseil d'administration de l'amicale régionale éducateurs d'Île-de-France, bah, effectivement, je rencontre tous mes collègues, comme vous le dites, de l'Essonne, de la Seine-et-Marne Nord et de la Seine-et-Marne Sud, parce que c'est un grand département, donc celui-là, l'Essonne est en deux, du Val-d'Oise, des Hauts-de-Seine, et bah, voilà, nous dissertons. Et nous concertons et nous essayons de développer une politique sportive commune dans tous les départements.
Et tout le monde arrive à travailler en parfaite symbiose, parfaite harmonie, il n'y a pas de...
Non.
Quelqu'un qui essaie de tirer la couverture à lui.
Non, parce que vous savez, les sujets, ils sont communs et franchement, ensemble, on est plus fort que tout seul. Donc tout le monde tire parti des expériences des autres. Et on en parle justement. On a une sorte d'observatoire sur chacun des départements et on tire profit des enseignements, des leçons, des expériences développées sur les autres départements.
Est-ce qu'il y a des districts qui ont plus de problèmes que d'autres à travers ce que...
Bah, évidemment, que vous avez, ce sont des problèmes de population. Rappelons-nous, faisons un petit peu d'histoire, encore une fois, rappelons-nous ce qui est arrivé en Seine-Saint-Denis il y a quelques années, où le président du district de Seine-Saint-Denis, M. Marcel Bourdin, qui est un homme très courageux, très compétent, avait dit bah, stop à la violence. Bah, moi, je ferme les terrains et il n'y aura pas de match tant que tout ne sera pas revenu au calme. Il avait pris cette initiative, il avait eu raison, il faut le faire. À un moment donné, il faut quand même... faire ce qu'il faut.
Alors vous faites aussi un effort important pour l'arbitrage. Éducateur et arbitre, c'est un même combat pour le foot.
Tout à fait. Je dois dire que je m'entends très très bien avec Alain Audu, que je salue écoute, qui apporte énormément à l'arbitrage yvinois, après avoir apporté énormément à l'arbitrage français. Et on est vraiment sur la même longueur d'onde. Nous nous concertons très 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 souvent. Et nous essayons de développer des mesures qui font qu'il y a un retour au calme dans le football quand ça déborde un peu. Quoi.
Des amicales de ce type, il y en a en dehors de l'Île-de-France.
Il y en a partout en France. Dans chaque département, et il y a même des départements où il y a plusieurs amicales sur le même territoire.
D'accord.
Par exemple, en Gironde, il y a au moins 4 ou 5 amicales, parce que c'est un grand département, et il y a plusieurs amicales.
Et est-ce que ça arrive de se réunir à l'année avec toutes les amicales? Est-ce que vous en êtes là encore?
Tous les ans, Tous les ans, il y a une assemblée générale à Noël. La dernière fois, on était à Lyon. Et nous avons réuni toutes les amicales départementales et régionales, y compris les amicales d'outre-mer, d'ailleurs. Amicales d'outre-mer sont conviées, que ce soit à La Réunion, en Martinique, ou en Guadeloupe. Et je les salue également, parce qu'ils sont des grands footballeurs et de bons éducateurs. Donc, ils sont conviés. L'année d'avant, c'était à Saint-Émilion. Alors, cette année, en 2008, ça sera à Paris.
Et là aussi, des actions concrètes, avec des préoccupations communes.
Oui, bah déjà, il faut quand même ou rappeler exactement l'existence d'une belle revue, d'un bon magazine qui s'appelle Entraîneur français. Et je crois qu'effectivement, les éducateurs qui lisent cette revue sont très contents d'y trouver toutes sortes d'exposés techniques, des interviews d'entraîneurs, d'y trouver des expériences. Bon, en dehors de ça, oui, on développe beaucoup d'actions. On a des réunions interrégions. Et puis, on développe tous les thèmes dont on parle. Hein. On a créé un permis de conduire une équipe. Ça, c'est quelque chose de nouveau. On veut que l'éducateur ait ce permis de conduire. Ça veut dire quoi? Un diplôme fédéral ou d'État, plus une formation spécifique qui permette d'avoir la formation adéquate pour pouvoir se présenter et s'asseoir sur le banc de touche, quoi. On lutte contre la violence, c'est bien évident. Il y a eu un livre blanc qui a été écrit à l'initiative de l'amicale éducateur de football il y a 3-4 ans sur le thème de la lutte contre la violence. Donc, on participe à toutes les actions qui sont nécessaires en ce moment pour développer le football dans des conditions normales.
Très bien. Alors, on va donc ensuite enchaîner sur l'actualité nationale et internationale de foot, hein, Jean-Louis, c'est normal hein, quand on s'intéresse au football. On aura aussi des directs avec nos amis du Red 28 qui devaient nous rappeler il y a 10 minutes, alors on va les rappeler hein, pour savoir où est-ce qu'on en est. On va quand même rappeler auparavant les résultats de la 21e journée de championnat, tout en vous signalant quand même qu'on a vécu une folle semaine de Coupe de la Ligue, hein, puisque Le Mans donc, a battu Lyon 1-0. Quel match de Pelé qu'a donné à lui seul pratiquement la victoire au Mancéen. Hein,
alors, je vois pas toujours les matchs, mais celui-là, je l'ai vu pour une bonne partie. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques arrêts déterminants de Pelé, qui est un grand gardien au sens physique du terme, comme par son talent.
Alors, Paris Saint-Germain qui bat donc Valenciennes 4-0.
Oui, bah, j'ai vu aussi une partie du match, 4-0, bah, je crois que les circonstances ont fait qu'effectivement, quand Paris Saint-Germain a fait le break 2-0, après le troisième but est venu rapidement, bon, c'était fini. Alors il est vrai, peut-être à la décharge de Valenciennes, qu'ils n'avaient peut-être pas leur équipe complète, mais enfin, c'est une victoire.
Je crois que le fait que, dans le match, hein, c'est le match qui est comme ça, mais le fait qu'ils se soient retrouvés menés 1-0, tout à fait logiquement, et qu'ensuite, dans la foulée, il y a eu la sortie d'Yepes, une équipe qui mène 1-0, qui se replie, ça n'a pas été forcément une bonne chose pour Valenciennes.
Bah non, parce que vous savez, il arrive quand même de temps en temps que des équipes qui jouent à 10, elles gagnent le match. Et puis, vous voyez, 4-0 quand même, en jouant à 10, c'est quand même c'est une performance d'une certaine manière.
Le réveil de Lens, hein, qui a battu et qui a écrasé Nancy 3-0, ça c'est la grosse surprise quand même.
Oui, bah, vous savez, quand on est mal, quand il y a une lueur d'espoir qui peut se déclencher grâce à une victoire, on la prend comme elle vient, c'est bien, tant mieux pour Lens, qui est quand même une grande équipe de football, un grand club de football, c'est un bastion du football, Lens. Ça serait dommage qu'une équipe comme ça disparaisse du football de première division.
Et puis, Auxerre, qui s'impose dans le temps additionnel, avec une tête de Pedretti, grosse faute de marquage de la défense marseillaise.
Oui, j'ai vu les images à la télévision, il y a un oubli, parce que le but est marqué comme à la parade, en plus on dit que Pedretti n'est pas un grand spécialiste de la tête, mais là, on lui amène vraiment un caviar, il a pu ajuster l'Irien proprement et marquer le but, bon, tant mieux pour Auxerre. Alors c'est vrai, il y a quand même quelques surprises, voir Le Mans profiter à ce niveau-là.
Donc Lens, Le Mans et Paris Saint-Germain Auxerre seront les deux affiches demi-finales, donc ça promet deux belles affiches ouvertes.
Oui, alors oui, deux affiches ouvertes, et puis il y a une chose qu'on peut ajouter quand même, c'est un petit peu dommage quelquefois que les équipes de première division prennent pas trop au sérieux cette épreuve de la Coupe de la Ligue, parce que n'oublions quand même pas que celui qui gagne tout de suite, il a un titre, c'est quand même pas mal quand on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent, surtout en fin de championnat, et puis deuxièmement, ça ouvre quand même une qualification pour une Coupe européenne, donc je trouve que c'est pas à négliger, quoi. Un titre, c'est un titre. Et voilà, et donc faut pas mettre ça de côté.
Donc Gagné qui a marqué deux buts pour le PSG, Pento, il a deux buts pour lui.
Il y a des jours on est où ça se passe pas comme on veut. Qu'est-ce que vous voulez, je connais bien la place.
Très bien, donc belle, effectivement, de semaine de Coupe de la Ligue, et puis une journée de championnat donc qui a vu que certaines équipes n'avaient pas confirmé, comme Paris, qui a été battu 1-0 à Lorient. Paris qui avait gagné son premier match au Parc des Princes la semaine dernière contre Lens 3-0, qui pensait être parti sur une bonne série. Coup d'arrêt, donc c'est Bourillon qui a marqué contre son camp, donc à la 20e minute. Ensuite, on a eu un match nul entre Toulouse et Caen, 1-1. Un petit coup d'arrêt quand même pour Caen, qui avait fait 0-0 contre Nancy la semaine dernière, qui n'a pas pu aller gagner à Toulouse, qui ne tourne pas pourtant très bien. Victoire de Bordeaux, ça c'était le match phare de cette 21e journée. Victoire de Bordeaux au Mans 2-1. Le Mans qui va être privé de ses Africains pour la CAN, parce qu'on commence la CAN ce week-end.
C'est le problème de ces équipes. Le problème où s'existe à Lens, je crois savoir, et chaque année quand il y a la Coupe d'Afrique des Nations, ces équipes-là sont privées de leurs joueurs, mais ils le savent à l'avance, donc c'est à eux de gérer ça et d'avoir l'effectif convenable sur le banc pour pouvoir pallier ces départs.
Alors Marseille qui a battu Vincennes 3-1, les Marseillais ont marqué avec deux buts de Djibril Cissé, donc c'était les deux équipes qui avaient perdu en Coupe de la Ligue cette semaine, c'était important de voir la réaction. Marseille a bien réagi.
Marseille, c'est tout de même une bonne équipe, mais je crois que ça correspond au retour en forme de Djibril Cissé, qu'il dit lui-même d'ailleurs sur les ondes, il dit « je me sens mieux, je reprends confiance, j'ai marqué deux buts, écoutez, tant mieux pour moi, tant mieux pour mon équipe, bon, voilà, donc on peut lui souhaiter.
Ouais. » 2-0, Saint-Etienne qui bat donc Rennes. 2-0.
Je crois que ça paraît aussi assez logique. Saint-Etienne qui avait été battu, je crois, le match précédent.
Oui.
Rennes
qui est
pas sur une bonne spirale, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Le changement d'entraîneur, d'ailleurs, a priori, il n'y a pas trop fait grand-chose, du moins pour l'instant. Donc Rennes qui s'enfonce un petit peu, il devrait se reprendre, je l'espère.
Alors ensuite, on a eu la victoire de Monaco à Metz 4-1. Alors, avec Frédéric Piquen qui a marqué le deuxième but, ça fera plaisir à nos amis de Martinique.
Piquen, c'est un beau joueur. Très agréable à voir jouer, ça paraît classique. Monaco, c'est quand même plutôt une équipe de tête, et puis Metz, ça va pas fort, quoi. Je veux dire, début de saison, alors pas normal.
Sochaux Lille apparaît un résultat logique entre deux équipes
qui essaie de se reprendre. Lille, dont on pouvait penser qu'il aurait fait beaucoup mieux, mais le fait qu'il n'y ait pas eu le stade à Lille, je crois quand même ça joue, parce qu'ils ont une très très belle équipe à un moment donné, et puis le fait qu'il n'y ait pas ce stade, qui est peut-être pas un vrai projet.
Ils ont quand même trois joueurs clés.
Ils ont perdu des joueurs clés, ils ont vendu des joueurs, et je pense que cette équipe est un petit peu affaiblie cette année. Quand même.
Et puis Auxerre qui a concédé le nul à domicile contre Strasbourg 1-1. Là aussi, c'était le genre de match à finir par un match nul. Strasbourg qui n'allait pas très bien. Auxerre qui a joué son match de Coupe de la Ligue, donc ça explique aussi peut-être ce nul à domicile.
Ouais, et puis Auxerre qui a un petit peu plus de mal. Hein. C'est les clubs formateurs, c'est un peu comme Nantes, mais je crois que c'est pas facile. Quoi.
Alors, à 18h, il y a un beau Nice-Nancy, hein, deux belles équipes de tête. Et puis, donc, à 21h, Lyon qui ira défier Lens à Bollard.
Ah, ça devrait faire un beau match, avec de l'ambiance chez les 100 et or.
Voilà, donc pour l'instant, avant même ces deux derniers matchs de cette 21e journée, Lyon possède 3 points d'avance sur Bordeaux, donc 42 pour Lyon, 39 pour Bordeaux, 3e Nancy, 36, 4e Caen, 33, 5e Valenciennes et Nice, 32, et 7e Monaco, 31 points, pardon. Donc on voit Marseille qui est maintenant 10e avec Saint-Etienne avec 28 points, et Paris Saint-Germain est 14e avec 25 points. C'est bien comme ça qu'on voit des équipes comme Nancy, voilà, comme Caen, comme Valenciennes, comme Nice, qu'on n'attendait pas.
J'allais vous parler de Nancy. Moi, je suis très content qu'effectivement une équipe comme Nancy se profile à la 4e place, c'est bien ça. Hein, alors qu'ils ont un budget qui est de très loin de ceux des équipes dites grandes, que ce soit Marseille, PSG ou d'autres, donc c'est bien, ça prouve qu'avec un bon groupe, de bons joueurs, un bon staff, on peut faire des choses, quoi. Donc ça me paraît très bien.
Et puis Valenciennes, Caen,
Valenciennes, aussi, avec notre ami Comboiré, encadré également par Bernard Guindou, un ancien des Yvelines, on les salue en passant. Oui, ça nous fait plaisir pour eux, parce que ce sont de bons entraîneurs de football, des gens qui sont très compétents, donc on est content pour eux.
Très bien, allez, la pause musicale, Jean-Louis, et ensuite on repart sur le Red 28, hein, parce que c'est quand même l'événement de ce dimanche de sport.
Tout à fait.
Allez, comme promis, on repart maintenant sur le Red 28. Patrick Pilorget. Patrick ?
Oui, rebonjour.
Alors Patrick, vous n'avez pas eu d'équipe encore ?
Alors, nous voulions vous faire une surprise en vous proposant l'interview en direct d'une équipe belge.
Oui.
On l'attend, elle est en train de faire sa course d'orientation, qui est une spéciale assez dure, sur une carte qui s'appelle la carte de Changarnier. Donc ils sont là, on les attend. On attend également incessamment sous peu l'équipe des Dunes d'Espoir, parce que nous vous avons raconté notre aventure amicale avec les gens de Dunes d'Espoir, qui sont une association qui vit sur des courses avec des enfants, des jeunes gens qui sont les passagers de la Joëlette. Donc ça, c'est un moment fort de la course. Ces gens-là nous étonnent, ne cessent de nous étonner, parce que ils sont dans les 5 premiers de la course. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Ils ont un culot incroyable. Ils franchissent des endroits où, sans la Joëlette, c'est déjà très difficile. Donc ça, ceux-là vont créer une surprise assez formidable dans la course. Ça, c'est le premier point. Il y a également des équipes nouvelles qui sont venues sur le Red 28 cette année, qui sont des gens qui viennent de province. Il y a Arvernard d'Or, il y a VK2S, ce sont des équipes soit bretonnes, soit alsaciennes. En plus, cette équipe belge, qui, à l'étonnement de tout le monde, se trouve largement en tête et se sont énormément détachées. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, et les équipes très fortes qui sont venues sur le Red 28 font une différence colossale avec toutes les autres. Cher Philippe, je t'annonce que en face de moi, dans le chemin, à 50 mètres, est en train d'arriver, je crois, cette équipe belge.
Ah, bah
si
voilà.
Tu veux bien attendre quelques instants, on va leur demander leurs impressions, parce que ils ont fait énormément de route pour venir ici. C'est une équipe entièrement belge, j'espère que c'est eux qui se présentent.
Et on va en prendre. Eh ben, vous allez apprendre, Patrick. Alors Patrick, un petit mot quand même, les premières équipes sont attendues vers quelle heure du côté de Buren?
Bah, je pense que les premières équipes vont arriver entre 15h et 16h. Elles vont consommer tout leur temps. C'est bien l'équipe que nous attendons. C'est bien l'équipe de nos amis belges. Nous allons leur demander de patienter quelques instants. Nous sommes en direct avec une radio très célèbre en Ile-de-France, qui est Radio Vieille Église, avec lesquelles on est en train de faire un direct. Et nous vous attendions, ça tombe très bien. Qui est le capitaine dans votre équipe? Voilà, donc, tu es en direct à la radio d'Île-de-France, la plus connue, la plus écoutée, c'est même la radio en couleur de l'Île-de-France.
Oh, c'est beau, Patrick.
Donc, voilà, peux-tu nous dire un petit mot sur ton avancée dans la course? Vous êtes très bien placé jusqu'à...
Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a beau courir le plus vite qu'on peut, je crois qu'on va rater l'heure de la messe, et ça, c'est terrible. Sinon, ma foi, ça se passe bien... mais on était prévenus. Et l'équipe avance bien, on s'amuse bien, bonne ambiance. Donc, d'ores et déjà, un grand merci au GE du Red 28.
Donc, ils ont l'air très satisfaits. Il y a une féminine avec eux, on peut lui demander son impression, parce qu'elle est attachée à son partenaire Ficelle. Je pense qu'ils ont peur de se faire prendre leur féminine. Peux-tu nous dire un mot sur cette course que tu ne connaissais pas?
Je vais simplement dire que ça se passe très bien jusqu'à maintenant. Et on s'est bien amusé toute la nuit et c'est chouette, on a eu super bon et on attend, on sera triste que ce soit déjà terminé à mon avis. Donc voilà.
Vous avez entendu l'accent, ça nous fait plaisir de les avoir parmi nous. On espère qu'avec cette course on leur a apporté un maximum de satisfaction.
Allez, on va continuer. Ouais, en tout cas, merci à eux, Patrick. Hein. Et puis, effectivement, ils ont gardé tout leur humour malgré cette nuit de fatigue et de compétition. Hein.
Ah, ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons affaire, aussi bien que nos amis belges que ceux qui sont dans la course, même jusqu'à la 10-15e équipe, à des véritables champions qui se sont parfaitement bien entraînés pour faire cette course. Ils ont entraîné leur équipe, ils se sont préparés à des moments difficiles. Je pense surtout qu'ils se sont préparés à passer des moments très durs, dans le froid, voire dans la pluie. Et le climat plutôt sympathique que nous avons eu cette nuit a donné un moral d'enfer aux ces équipes. Et maintenant, elles s'apprêtent à faire la deuxième partie de la course, qui n'est pas très facile, mais elles ont l'air très décidées. Et, je pense qu'on va avoir de très très belles arrivées et un podium absolument extraordinaire ce soir.
Très bien, merci Patrick d'avoir joué les reporters. On se retrouve d'ici une dizaine de minutes pour faire un petit point sur la position des différentes équipes.
D'accord.
Ok, merci Patrick.
Merci à vous.
Voilà, et ben vous voyez, Patrick Pilorget qui a joué donc les journalistes sportifs avec cette équipe belge hein, qu'on attendait, parce que c'est ça aussi donc l'esprit du Red 28. Alors donc autre événement, Jean-Loup, on revient naturellement sur le foot, hein, événement national, international, c'est l'Euro. Vous y croyez à cette équipe de France ?
Bah, bien sûr qu'on y croit. De toute façon, on est toujours supporter de l'équipe de France. On est toujours derrière elle, quoi qu'il puisse se passer. C'est notre sport, on l'aime et on soutient notre équipe de France. Alors oui, on y croit, parce que je crois que nous avons quand même de bons joueurs en France. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir le mariage des anciens, on peut dire, avec Thierry Henry comme chef de file, et puis bah, de ceux qui arrivent, parce que c'est ça. C'est le renouvellement, une équipe, il faut la renouveler à bon escient, mais on en est là, quoi. Alors comment ça va se passer ?
C'est vrai qu'il y a un potentiel énorme, quand même.
Il y a un gros potentiel, hein, quand on voit les clubs dans lesquels évoluent tous ces joueurs. Bien sûr, on rappelle toujours que très souvent ils évoluent à l'étranger pour des raisons qu'on connaît bien, mais quand même, il y a quand même de très bons joueurs. Hein.
Alors, bon, il y a un groupe qui est très difficile, c'est peut-être le groupe le plus difficile, mais enfin, on peut penser que la France va sortir avec l'Italie quand même.
Oui, mais pas facile quand même, pas facile. Il ne faudra pas se louper, et surtout, il ne faudra pas se louper sur le match d'entrée, hein, parce que quand vous loupez le match d'entrée, après, c'est dur de revenir.
Hein. Surtout l'Euro, hein, ça dure moins longtemps qu'un mondial, il y a trois semaines, hein, contre quatre pour le mondial.
Vous avez une poule de quatre, trois matchs.
Il y a un match de moins, donc on ne peut pas se rouler.
Non, on peut pas louper, le premier match va être fondamental. Hein. Si on aborde bien le premier match, bon.
Et puis Raymond Domenech souhaitait quelques peut modifier le calendrier, apparemment ça va pas se faire, il voulait un temps de préparation un peu plus long, ça va pas se faire, donc ça risque d'être un peu serré au niveau de la récupération.
On est toujours tributaire des calendriers nationaux, mais je crois que ce qui est vrai chez nous, c'est vrai ailleurs. Regardez le championnat anglais, le championnat espagnol, ça finit pas très tôt non plus, donc je pense qu'on est à égalité.
Alors Jean-Loup, on a commenté les résultats de la 21e journée, vous le trouvez comment ce championnat? Bon, malgré vos innombrables occupations, vous suivez quand même.
Oui, je le suis.
Comment vous vivez ces matchs de Ligue 1? Parce que c'est vrai qu'on a un spectacle assez moyen quand même, au niveau de la Ligue 1, je parle. Hein.
Spectacle moyen, je sais pas, c'est vous qui le dites. Oui.
Ça vous plaît tous les matchs devant la télé des fois?
Non, pas toujours. Pas toujours, honnêtement. C'est vrai que. Non, mais c'est vrai que quand on repasse un match de Coupe d'Europe, très enlevé, avec un rythme, avec des grandes équipes, des grands joueurs, bon, puis qu'on revient dans un championnat national, mais peut-être qu'il y a d'autres championnats nationaux qui sont. Bon.
C'est parce qu'on est dépourvu de nos meilleurs joueurs ou les entraîneurs français ont peut-être une conception un peu différente sur le plan
tactique. Non, je crois pas, mais enfin, il y a quand même beaucoup d'équipes qui se tiennent. Il y a l'enjeu, il y a le résultat. Alors évidemment, ça ne favorise pas forcément le spectacle. Hein. Enfin, il y a quand même des bons joueurs en France. Puis, de toute façon, il y en a qui se révèlent. et puis bah qui monte la pente très rapidement, mm-hmm. et puis bah après ils font dans
mais
la lumière.
Mais le problème, l'éternel problème, c'est qu'on peut pas garder très longtemps ces joueurs.
Bah non, mais là, attendez, il y a un autre problème à régler. Mm-hmm. Ça serait le problème du statut social et fiscal. Et il est très clair que les législations étrangères sont plus favorables aux joueurs de football qu'en France. Et tant qu'on n'aura pas réglé ça, bah malheureusement, nos meilleurs joueurs partiront jouer à l'étranger, mm-hmm. parce qu'ils y trouvent des meilleures conditions financières et des meilleures conditions fiscales. On en est là, mais c'est pas nouveau. Le sujet est connu.
Oui, oui. Et donc, bah aussi, ensuite, le mondial de 2010, hein, des éliminatoires. Et Dominique a dit qu'on sera en finale, que cette équipe, cette génération qui va arriver, les Benzema, les Ben Arfa, auront encore plus de maturité en 2010. Et lui, voit cette équipe de France en finale.
Bah écoutez, il va peut-être vite en besogne, mais bon, ouais, c'est un optimiste. Et si l'entraîneur national ne l'est pas, qui le fera. Mais je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même des joueurs de grand talent qu'on voit apparaître, comme vous dites, hein, Benzema, Ben Arfa, tous ces joueurs, il y en a d'autres. Mais je pense qu'ils seront encore meilleurs dans 2 ans, ça c'est indiscutablement.
Alors, il y a aussi les Coupes d'Europe qui vont bientôt reprendre en février. Il reste Lyon, donc, comme en Ligue des Champions, avec un match fabuleux, hein, ça promet déjà contre Manchester.
Ça va pas être facile, c'est la moindre des choses que l'on peut dire.
Là aussi, c'est pas un tirage très favorable. Enfin, Lyon a terminé deuxième de sa poule, donc il fallait s'attendre déjà.
Et puis arriver à ce stade, de toute façon, il n'y a que des grandes équipes, il n'y a que des belles équipes. Bon, bah, ça fera de beaux matchs. Bon, après tout, on a toujours sa chance. Hein.
Mm-hmm. Oui, mais justement, ce fameux carrefour, ce fameux palier, pardon, que Lyon n'arrive pas à franchir, en huitième, en quart, hein, en tout en quart, est-ce que Lyon va réussir à le franchir? Parce que quand on a Manchester sur sa route...
Moi, il me semble que ça paraît assez logique. Manchester est quand même plutôt le favori, hein, dans cette double confrontation. Mais vous savez,
c'est une bonne chose pour Lyon.
Oui, mais oui, à Outsider, c'est pas mal non plus, parce que sur le premier match, imaginez que le premier match se déroule bien. Bon, bah, après tout, mais ça va pas être facile quand même. Hein,
Alors justement, Lyon, le fait que Lyon gagne peut-être les championnats un peu trop facilement. Là, encore, les Lyonnais s'en vont vers un cinquième titre consécutif. C'est pas un désavantage pour la Coupe d'Europe, parce que il manque peut-être. Un ou deux adversaires qui viennent le titiller, comme le Saint-Étienne de la grande époque, comme le Marseille de la grande époque. Est-ce que c'est pas ça qui manque finalement à l'arrivée à Lyon pour une Coupe d'Europe, d'être poussé dans ses retranchements et de passer la surmultiplier au moment où il le faudrait?
Peut-être, mais peut-être aussi que les bancs, comme on dit, des équipes étrangères, italiennes, espagnoles, anglaises, sont peut-être un petit peu plus fournis en joueurs d'un gabarit, d'un calibre européen, quoi. Peut-être, ouais, ils sont peut-être un peu plus riches que celui de Lyon. Hein, même, c'est pas à faire.
Et la campagne contre le président Aulas, parce que c'est un homme très décrié quand même. Hein, qu'on soit parisien, marseillais, stéphanois, on est anti-Aulas. Alors, est-ce qu'il en fait pas un peu trop? Est-ce que
Aulas est toujours présent sur la scène médiatique, il a dit bien arrêté, il défend son club, mais il y en a d'autres qui le font aussi, alors après tout...
On ne peut pas quand même lui donner tort d'avoir travaillé dans la durée, dans la patience, d'avoir permis à Lyon d'être ce qu'il est aujourd'hui. Alors, c'est peut-être les autres qui n'ont pas fait...
Alors ça, vous avez raison de le signaler, je crois que ça fait quand même, depuis qu'il est à la tête du club, qu'il a patiemment construit son club, et s'il en touche les dividendes aujourd'hui, ça c'est justice. Hein. Après tout, structurer son club, mettre les éducateurs qu'il faut, les entraîneurs qu'il faut, au bon endroit, il fait ça depuis des années. Moi, je l'avais vu déjà, même pour les équipes de jeunes, il y a plusieurs années, sur des tournois internationaux qui avaient lieu dans les Yvelines, les équipes de Lyon étaient là, mais c'était fait soigneusement. Les managers de ces équipes de jeunes venaient reconnaître les lieux, donc c'était un travail très scientifique, très pro, pour programmer tout ça, donc ça m'apparaît pas illogique. Les autres clubs n'ont qu'à faire pareil.
Et la Coupe UEFA aussi, Marseille-Bordeaux, alors c'est une coupe de substitution qui intéresse beaucoup moins qu'avant, Jean-Loup, c'est une coupe intéressante à jouer, parce que il y a beaucoup malheureusement, de clubs de Ligue 1 qui veulent se qualifier pour l'UEFA, hein, à travers la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue, et puis une fois qu'ils y sont, ça semble plus les intéresser.
Peut-être pas, mais il y a de la compétition, puis il y a quand même beaucoup d'équipes qui sortent de la Champions League, qui sont contents de revenir et d'avoir quand même un titre. Comme je le disais tout à l'heure, pour la France, pour la Coupe de la Ligue, ça vaut également pour l'UEFA. On peut pas cracher sur un titre.
Ouais, enfin, il y a beaucoup d'équipes qui ont été éliminées dès les premiers tours, quand même Toulouse, Rennes. Équipes quand même qui pouvaient passer ces tours sans problème.
Elles l'ont pas fait. C'est donc les autres ont été meilleures. Que vous dire de plus, c'est la stricte compétition. Qu'est-ce qu'il faut être bon au bon moment. fête. Mm-hmm. On peut pas faire l'impasse sur ces coupes-là, faut savoir ce qu'on veut. Bien sûr.
Alors vous êtes venu avec un bouquin fabuleux qui est l'histoire de la Coupe de France. C'est magique cette Coupe de France. Hein. On l'a vu encore il y a quelques week-ends, ces clubs amateurs qui vont défier les gros professionnels. Bon, il y a parfois un exploit sur 10, mais quand il y a l'exploit, il y a l'exploit. Quoi.
La Coupe de France a toujours été magique, vous le savez bien. Elle a toujours fait rêver, elle fera toujours rêver. Chaque année, on assiste à des surprises.
Oui. Et moins, ça sera toujours moins quand ça. Même depuis quelques temps dès les premiers tours, parce que les équipes maintenant se méfient un peu plus. Hein, les équipes professionnelles se méfient un peu plus. Hein. Alors, il y en a, mais moins qu'il y a encore une dizaine d'années.
Oui, les équipes professionnelles se méfient des équipes amateurs. Elles ont raison, d'ailleurs, parce que les équipes amateurs sont très motivées pour battre les professionnels lorsque l'occasion se présente. Mais aussi, il faut dire qu'il y a quand même d'excellentes équipes amateurs. D'ailleurs, est-ce que ce sont les équipes amateurs? Quand on parle d'équipes du niveau national ou CFA, voire CFA2, bah, il y a quand même des joueurs qui s'entraînent beaucoup dans la semaine. Et donc, effectivement, il y a une réduction de la marge entre une équipe professionnelle et une très bonne équipe amateur.
C'est ce qui vous manque dans les Yvelines, une grosse équipe, Poissy, Mantes, qui puisse comme ça faire un beau parcours en coupe?
Bah, écoutez, ça dépend des années. C'est vrai, Poissy, je connais bien. Le Mantois, je connais bien. C'est vrai que ces dernières années, il n'y a pas eu de parcours extraordinaire. Le Mantois, si, c'est pas mal débrouillé cette année. Mais c'est vrai que c'est pas tous les ans. Mais bon, bah, écoutez, ça reviendra. Quand ça déclenche tout d'un coup, on peut se retrouver en 32e de finale, c'est une finale.
Ouais.
Mais c'est vrai que ça fait un petit bout de temps que ça ne s'est pas produit. Alors, bah, écoutez, on va voir la prochaine.
C'était
coupe.
Plutôt l'Essonne aussi, hein, ces derniers temps. Et puis le Paris FC qui a fait l'exploit, qui est allé gagner à Toulouse en 32e de finale de Coupe de France.
Paris FC, oui, qui est un club qui existe quand même depuis des années et des années, qui a fait un très très beau parcours en allant s'imposer à Toulouse. Bravo à cette équipe parisienne, qui prouve encore qu'une fois que le football francilien est très présent, qu'il a de bons joueurs, qu'il a de bonnes équipes.
Hein. Oui, parce que c'est vrai qu'on a le sentiment quand même que derrière le Paris Saint-Germain, c'est un peu le parent pauvre. Il y a des clubs qui essayent de se monter. Nous, on avait été commenter un match du côté de Sannois-Saint-Gratien contre Toulon en avril dernier. C'est quand même difficile pour les clubs
français. Vous avez raison, c'est un débat que j'ai entendu sur d'autres ondes, à partir de la performance du Paris FC, en disant est-ce qu'il y a la place pour un deuxième ou un troisième club
Il y a eu du mal, Colombe, mais
il faudrait déjà que ces clubs ils marchent bien, vous avez raison. Il y a eu le Red Star, il y a le Racing, il y a eu PFC, il y avait dans le temps, rappelez-vous, mais c'est vieux, le Stade français. Il y avait des clubs, il y avait des clubs en première division à une époque. Il y avait le Stade et le Racing, maintenant il n'y a plus que le PSG. C'est un petit peu dommage, mais ça veut dire quoi? Travailler, structurer, faire un travail sérieux.
Et pourquoi pas peut-être se mettre ensemble, faire un autre grand club francilien en dehors du Paris Saint-Germain?
Bah oui, mais où? Faut déjà avoir l'assise d'un bon club.
Il n'y a pas les stades,
qui?
Oui, il n'y a pas.
C'est pas deuxième club, il va pas aller jouer au Stade de France, donc il reste le parc, parce que le PSG est resté très fidèle, très attaché à son parc des Princes.
Il reste Saint-Ouen, Colombe qu'il faut rénover.
Ah oui, mais il faudrait un club support déjà. Et lequel? Lequel? On est obligé de reconnaître que ça végète un petit peu. Hein.
Ou alors ça.
Le Racing est revenu, le Racing végète un petit peu. Le Paris FC, ça n'a pas l'air trop mal. Enfin, c'est pas ça qui fait une équipe de première division. Hein.
Allez, on retourne, comme promis, donc une troisième fois pour le Red 28. Patrick, alors un petit point sur la position des équipes.
Tout à fait. Nous allons pouvoir donner la position des premières équipes qui sont passées actuellement dans la région de Saint-Quentin, vers les Granges de Port-Royal. Évidemment, en tête, les équipes les plus fortes, qui sur le papier, évidemment, appelées à être sur le podium, comme Arvers-Aventure, une équipe très forte qui vient de province. Ici, Aventure, qui est une équipe région parisienne aussi, qui fait énormément de raids et qui est actuellement en deuxième position, mais il faut compter les points maintenant avec les balises. En troisième position, une très belle équipe également qui vient d'Alsace entièrement, PK2M. En quatrième position, vous les avez eu en interview en direct il y a moins d'une demi-heure, c'est le team Quechua qui sont venus de Belgique uniquement et exprès pour le Red 28. Puis les équipes traditionnelles que l'on rencontre souvent, qui s'appellent les Désorienteurs, OAU, Let's Go 78, les équipes habituées au Red 28, qui finissent toujours dans les 10 premières, Ultra Castor du cœur, d'une espoir évidemment, on en a parlé, USB Jogging du dimanche matin, l'équipe Buressoise qui se classe actuellement dans les 10 premiers, les Kikourous du zoo qui sont des amis qui viennent courir tous les ans, et évidemment l'équipe Red Up qui avait hier, c'est-à-dire l'an passé, failli être sur le podium, face à sa belle attitude dans toute la course.
Oui, avec des noms quand même assez atypiques et assez particuliers, Patrick. Hein. C'est phénoménal, ça.
Il y a des équipes qui sont des équipes qui ont un nom qui dure tout le temps parce que c'est l'équipe de leur club, comme Arverne Aventure, ici Aventure VK2N, Team Quechua. Les gens qui ont un nom pour l'occasion, les désorienteurs par exemple, les Kikourou du zoo, etc., les amis du JDM, les amis de ceci. Donc ce sont des gens qui se regroupent sous un nom sympathique qui leur permet de s'illustrer dans le Red 28.
Très bien, alors le classement...
Une petite chose, je voulais te dire,
vas-y.
Philippe, on fait des rencontres ici parce que, évidemment, chaque année, nous avons des anciens qui reviennent sur le Red 28.
Oui.
Et puis malheureusement, des anciens qui ne peuvent pas faire d'équipe parce qu'ils n'ont pas trouvé les équipiers valeureux qu'ils attendaient. Et à leur grand regret, ils n'ont pas pu courir le Red 28. Eh bien voilà, ces gens-là, tout à l'heure, ils sont venus faire leur jogging dans la région de passage du Red 28. Et on a montré, c'est un moment amical, convivial, sympathique. Et ça me fait penser à la rencontre qu'on a aujourd'hui avec Hervé, plein de souvenirs, plein d'amitié, et nous vous remercions de nous avoir contactés ce matin pour parler du Red 28.
Bah, nous sommes là pour ça, Patrick, hein. C'est la moindre des choses. Alors justement, le classement, il va être facile à faire à l'arrivée, ça prend quand même 2-3 heures avant de...
Alors, le classement, en fait, comme il y a beaucoup de cartons, il y a 8 cartons de pointage, nous ramassons les cartons de pointage au fur et à mesure où les équipes nous les rendent au point de contrôle, ce qui fait que lorsque le dernier carton de pointage sera rendu à l'arrivée vers 16h, quand toutes les équipes sont arrivées vers 16h, nous aurons déjà pointé 7 cartons. Donc, en une demi-heure, nous allons donner le classement définitif.
Très bien, merci Patrick.
Je vais finir sur une image, si tu me permets.
Oui.
Je vois au bout du chemin... image extraordinaire qui est l'image de Dune d'Espoir. C'est un groupe d'une douzaine de coureurs qui entourent leur joëlette, qui arrivent sur le bout de ce chemin, dans cette magnifique forêt Saint-Quentin, là, parmi les joggeurs du dimanche, parmi les enfants qui font du vélo. C'est absolument magnifique. Je vous offre.
Eh ben voilà, ça sera le mot de fin. Merci Patrick.
Merci à tous et bon dimanche.
Voilà, ok. Donc Patrick Pilorget, hein, avec le Red 28. On vous donnera d'ailleurs les résultats, non pas la semaine prochaine, hein, parce qu'on va revenir très largement la semaine prochaine sur les émissions que l'on est allé faire cette semaine du côté de Tête Fort de France. Hein, un grand tribune sport consacré au sport antillais et un grand tribune foot consacré au foot antillais. Mais on vous donnera ce classement très détaillé dans notre émission Tribune Sport dans 2 semaines. Alors, Jean-Loup, bah, le temps est passé très vite. Hein, on va quand même parler de deux domaine important dans le domaine du foot. Est-ce que vous les accompagnez, le foot féminin d'abord, est-ce que vous, en tant qu'amical des éducateurs, vous